Bonsoir à tous, il est 15h à Washington, 19h en temps universel. Un point sur l'actualité avec Abdelrahman Dia. En Égypte, au moins 11 personnes ont été tuées, près de 100 blessées ce dimanche dans le déraillement d'un train au nord du Caire, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. 8 wagons du train qui se rendaient du Caire à Mansoura, à 130 km au nord, ont déraillé au niveau de la cité agricole de Tours. Un précédent bilan faisait état de 97 blessés. Il s'agit de la dernière d'une série d'accidents ferroviaires survenus récemment en Égypte. Le président français Emmanuel Macron estime dans un entretien au quotidien Le Figaro ce dimanche que la volonté de réconciliation des mémoires entre Français et Algériens est très largement partagée malgré quelques résistances en Algérie et qualifie ainsi d'inacceptable la déclaration du ministre algérien du Travail qui a affirmé que la France était l'ennemi traditionnel éternel des Algériens. Plusieurs morts dans le sud-est du Tchad de ces derniers jours dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs. C'est ce qu'indique ce dimanche la Commission nationale des droits de l'homme, des ONG tchadiennes et un hôpital de la région. Aucun bilan précis n'est disponible. Chérif Mohamed Zené, porte-parole du gouvernement, avait annoncé vendredi un retour au calme. La justice sénégalaise a refusé une demande de libération de l'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. Ses avocats avaient le 29 mars déposé une demande de libération pour raison de santé. Hissène Habré, 79 ans, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre de victimes de la répression sous le régime de Habré. Au Niger, au moins 19 personnes ont été tuées hier soir au cours d'une attaque dans la région de Tillaberi, proche du Mali. C'est ce qu'on a appris ce dimanche auprès d'autorités locales. Selon un responsable municipal, les bandits ont trouvé des gens au cimetière où ils étaient partis pour un enterrement. Ils ont massacré sur place 9 personnes. Ensuite, les assaillants, dont l'identité et le nombre ne sont pas déterminés, sont entrés dans le village et ont tiré sur les populations. 5 roquettes ont visé ce soir une base aérienne irakienne abritant des Américains en Irak, dont 2 au moins ont touché les locaux d'entreprises de sous-traitance américaine. 5 personnes au moins sont blessées. Des avions F-16 sont stationnés sur la base de Balad au nord de Bagdad et diverses entreprises y sont présentes pour la maintenance avec des employés irakiens et étrangers. L'Union européenne explique pourquoi elle pourrait ne pas renouveler son contrat avec AstraZeneca. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a indiqué ce dimanche que c'est en raison des retards de livraison accumulés depuis le début de l'année. On avait commandé 120 millions de doses pour le premier trimestre et 180 millions pour le deuxième. Il se trouve qu'au premier trimestre, ils n'en ont livré que 30 millions, ce qui a créé des problèmes que tout le monde a vus. Ils n'en livrent que 70 millions au second trimestre. Le contrat entre l'Union européenne et AstraZeneca se termine le 30 juin. En Russie, les alliés de l'opposant Alexei Navalny, emprisonné et en grève de la faim, ont appelé dimanche les Russes à manifester le 21 avril pour sauver sa vie. Selon ses soutiens, il est gravement malade. Cette manifestation, prévue pour mercredi, est organisée le même jour que le discours annuel du président Poutine devant les deux chambres du Parlement. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se penchent lundi sur le cas Navalny. Au Pakistan, au moins 7 policiers ont été pris en otage ce dimanche à Lahore par des manifestants anti-français, membres d'un parti islamiste radical. Ces manifestations se tiennent depuis une semaine dans les grandes villes pakistanaises. Le parti islamiste demande l'expulsion de l'ambassadeur de France au Pakistan. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez en compagnie du programme de VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de VOA Afrique. Heureux de vous retrouver dans le dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous. Lionel Lunanela Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons du quatrième et dernier type de tempérament, le colérique. Est-ce important de connaître son tempérament? Quel est le secret? Comment le reconnaître pour se reconnaître? Est-ce possible d'adapter ses comportements? Nous le verrons dans un instant avec notre panel, le duo Nathalie et Olivier. Et restez avec nous. Vous suivez le dialogue des religions depuis le Québec au Canada. Nos invités, Nathalie Nyamoya et Olivier Hakizimana. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Eric.
La question qui revient chaque fois, pourquoi parler du tempérament dans le dialogue des religions? Nathalie, est-ce que la foi a des effets sur le tempérament?
Oui, c'était très important de savoir que la foi peut nous aider à remonter ou à laisser tomber ou à minimiser les faiblesses. Je prendrai l'exemple de Paul, qui a été un très grand colérique, qui avait même été un grand persécuteur de l'Église, mais qui a été finalement changé par la foi.
L'apôtre Paul.
Oui, absolument.
Oui, Olivier?
J'ajouterais aussi Pierre, qui a été transformé par Jésus, parce que c'était un sanguin et son nom était Simon, et roseau, qui change tout le temps, qui est bougé par toutes sortes de vents. Et après, Jésus l'a changé, l'a transformé en pierre, qui devient comme un roc, quelqu'un qui est ferme. Et on voit que c'est Dieu qui, à la base, a créé toutes sortes de tempéraments, et c'est lui qui peut nous transformer en son image.
La foi est la base de la création.
Oui, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que Dieu est à la base de toute création. Et quand on parle de tempérament, ça fait partie de la personnalité. Et l'homme, comme la parole de Dieu nous le décrit bien, est fait en trois dimensions, esprit, âme et corps. Alors les tempéraments se trouvent au niveau de l'âme, qui a été aussi créée par Dieu.
Nathalie, donc pour vous, la foi constitue un pouvoir qui peut transformer les activités quotidiennes et ordinaires de quelqu'un?
Absolument. Et surtout, qui peut enlever les faiblesses et nous donner de vivre plus joyeusement en étant ayant moins de fardeau. Donc la foi est très très importante, en tout cas personnellement.
Olivier, est-ce que le tempérament peut avoir des effets sur la foi?
Ah, exactement, parce que je dirais souvent on compare le tempérament aussi avec les lunettes. C'est les lunettes à travers lesquelles on voit, on regarde Dieu et on essaie aussi d'interpréter les situations qui nous arrivent. Parce que devant une même situation, quatre tempéraments réagissent différemment. C'est pour cela que comprendre son tempérament nous aide aussi à pouvoir des fois interpréter différemment ce qui nous arrive et savoir aussi qu'on est sous, je dirais, l'influence de son tempérament. Et c'est pour cela que la Bible, c'est la parole de Dieu qui devient comme une lumière. C'est le miroir de Dieu qui nous aide à nous regarder comme Dieu nous voit, mais aussi à bien analyser les situations que nous traversons.
Précédemment, nous avons parlé du tempérament sanguin, celui du mélancolique et celui du phlegmatique. Nathalie, je m'excuse d'avance si j'utilise le masculin qui justifie le genre du tempérament.
Pas de souci.
Il ne faut pas m'en vouloir pour ça.
Oui, pas de problème.
Je vais quand même profiter de ta capacité de synthèse. Bon, voilà, utilisant enfin le féminin. Qui est la personne sanguine, mélancolique et phlegmatique, brièvement?
Je dirais qu'il y a, comme on l'a présenté la fois passée, il y a deux groupes de tempéraments, les extravertis et les introvertis. Les sanguins et celui qu'on verra, le colérique, se retrouvent dans les extravertis, alors que les introvertis, ce sont les mélancoliques et les phlegmatiques. Alors brièvement, le sanguin, c'est quelqu'un qui est très extraverti, très inconstant, qui est tourné vers les gens, qui a une passion pour les personnes. Alors que pour le mélancolique, c'est une personne qui est tournée vers les pensées, c'est une personne pensive, organisée et qui a souvent des tendances assez mélancoliques, c'est vrai. Donc il a des moments d'angoisse, il a des moments de pensée noire. Le phlegmatique, lui, a une tendance à être très calme. Il est certes introverti, mais il s'associe quelque part avec le sanguin parce qu'il aime être en paix avec les gens. Donc il est vraiment, c'est vrai, tourné vers les gens, mais pas très bavard, pas très ouvert, mais quelqu'un qui écoute très fort.
Olivier, nous nous focalisons ce soir sur la personne colérique. Qui est-elle? Toujours en colère?
C'est pas donc le seul caractère pour le définir, mais c'est quelqu'un qui a, je dirais, un caractère qui est fort. Alors, quand on essaie de le décrire, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est charismatique. Il fait partie de ce premier groupe dont Nathalie vient de parler. C'est un extraverti, c'est quelqu'un qui est un leader né, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui impacte. Il est ambitieux, il est plein d'assurance, mais aussi, je dirais, du côté de ses défauts, c'est quelqu'un un peu dominateur, qu'on peut considérer de machiavélique, des fois. Et il peut blesser facilement, parce que lui, je dirais, ce qui le motive, c'est plus l'action. Et il ne tient pas compte de la faiblesse des gens, il ne tient pas compte de l'humeur des gens, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Lui, ce qui l'importe, c'est plus l'atteinte de ses objectifs.
Nathalie?
Oui, c'est une personne assez particulière quand même. Parmi les quatre types de tempéraments, c'est la personne qui va sortir du lot. C'est la personne qu'on considère un peu comme écrasante, qui, quand elle vient dans un groupe, il va s'imposer. Elle va s'imposer. Elle va vouloir orienter les gens, elle va vouloir montrer le chemin, parce qu'il en a seulement les dons, mais aussi les capacités. Mais comme Olivier l'a dit, c'est une personne qui ne tient pas compte des autres. Donc l'une de ses grandes faiblesses, c'est de ne pas écouter les gens. L'une de ses grandes faiblesses, c'est de vouloir aussi ne pas reconnaître ses erreurs, mais tout en faisant quoi? En voulant être un dictateur.
Donc pour lui, c'est le pouvoir et le contrôle.
Absolument. Il est vraiment caractérisé par l'amour du... Ce n'est pas seulement l'amour, mais s'il n'a pas le pouvoir, il est dans un inconfort absolu. Donc il est très instabilisé lorsque une personne est au-dessus de lui. Donc c'est un bon portrait d'un rebelle, mais c'est pas seulement le fait qu'il soit rebelle, c'est qu'il a en lui vraiment des capacités innées de leadership.
Donc il veut dominer, mais il y a de l'arrogance dedans.
Oui, bon, bien sûr, du point de vue des autres, cela sera perçu comme de l'arrogance, et c'est une personne vraiment qui va blesser les gens. Beaucoup de gens vont se plaindre. Ce n'est pas seulement dans le couple, mais même au travail, parmi des amis. Il y a ces gens-là qui, quand ils passent, vous commencez à baisser les yeux par terre en disant « c'est pas possible, va encore nous bouffer, nous écraser, nous alourdir ». Mais c'est une personne qui, quand vous le mettez dans un contexte assez difficile, c'est une personne qui peut aller très loin. Nous avons des cas de colériques dans le monde. Par exemple, dans le monde occidental, on connaît bien Margaret Thatcher. C'était une femme premier ministre en Angleterre qui avait ce tempérament colérique. On connaît aussi Winston Churchill qui a été très efficace pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vrai que ce sont des tempéraments très durs, mais aussi dans des moments de crise qui sont nécessaires.
Olivier, vous dites que c'est une personne qui est confiante, réactive même. Est-ce que c'est quelqu'un de tolérant? Ton patient ou...
Non. Il n'est pas du tout patient. Je dirais que c'est une de ses faiblesses. Parce que c'est quelqu'un qui est porté, comme on l'avait dit, donc vers l'action. Il veut que les choses soient faites, mais qu'elles soient faites vite et qu'elles soient faites pour lui et selon ses règles. C'est pour cela que, comme on parlait tantôt en disant qu'il est arrogant, on le perçoit comme tel parce que souvent, il est plein d'assurance. Et il veut faire les choses selon ses règles, selon son temps. Et son temps, c'est tout et tout de suite. C'est pour cela qu'il est impatient.
Jusqu'où va son agressivité?
Jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Parce que pour lui, peu importe les moyens, pourvu qu'il atteigne ses objectifs. C'est pour cela que dans la description, j'ai dit qu'il avait un tout petit peu un caractère machiavélique. Peu importe s'il a marché sur la tête des gens, s'il écrase des personnes, pourvu qu'il atteigne ses objectifs. C'est pour cela que quand vous parliez tantôt de l'apport de la foi dans les tempéraments, l'amour de Dieu vient et nous touche, mais aussi l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Il vient et essaie, je dirais, de calmer nos tempéraments et de nous montrer, même si tu n'atteins pas tes objectifs donc aujourd'hui même, tu n'en mourras pas. Et c'est pour cela que les gens qui ont été touchés par l'amour de Dieu, comme Paul, celui qui a écrasé, qui a persécuté les chrétiens au début de la chrétienté, on voit que Dieu l'a visité et celui qui a écrit le bon poème sur l'amour, celui qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, quand il parle, quand il décrit l'amour, il dit « l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne cherche point son intérêt. » C'est le même Paul, le colérique, c'est lui qui ne cherchait que ses propres intérêts.
Nathalie, Si je comprends bien, une personne colérique, c'est quelqu'un qui peut avoir peu d'empathie, disons égocentrique.
Absolument. Il n'a vraiment pas le langage émotionnel. Il n'est pas à l'écoute non seulement de ses propres émotions, donc des émotions des autres. Parce que si c'est une personne qui est poussée vers l'action, l'action prime chez lui, les émotions priment moi. Donc déjà, s'il ne s'écoute pas vraiment, il ne va pas écouter les autres. Donc c'est vrai que habiter, vivre ou travailler avec une personne qui est colérique, c'est très difficile. Ce n'est pas évident. Jusqu'à ce que cette personne prenne conscience qu'il doit peut-être arranger certaines choses, parce que chaque tempérament a des forces et des faiblesses. Ce côté leader, ce côté feu, ce côté salvateur, c'est vraiment comme un pompier qui va à l'action. Cette chose est nécessaire, cette énergie est positive et nécessaire, mais lorsqu'elle est mal orientée, elle fait vraiment des dégâts.
Et qu'est-ce qui se passe en situation d'échec? Est-ce que c'est quelqu'un qui est découragé ou qui reste déterminé?
Souvent, il est découragé, mais il se relève toujours et il essaie encore. Il essaie d'éliminer tous les échecs. Et souvent, ces échecs, ce sont les humains. C'est pour cela qu'on le considère comme machiavélique. Il écrase les gens. Il veut atteindre son objectif. Et il déprime quand il n'a pas atteint son objectif. Et il réessaie. Il ne lâche jamais. Ils sont persévérants.
Est-ce que c'est quelqu'un au moins qui est accessible?
Ça dépend. Ça dépend. Si ça correspond à ses intérêts, il sera accessible. Mais naturellement, ça ne vient pas naturellement. Il n'est pas comme un sanguin ou un phlegmatique qui sont ouverts d'esprit, mais c'est quelqu'un qui regarde toujours qu'est-ce que tu représentes dans sa vie. Est-ce que tu es un escalier qui va l'aider à atteindre ses objectifs ou tu es un obstacle? C'est dans ce sens qu'il regarde les gens. Et si tu en considères comme un escalier, tu auras toute la place dans sa vie. Mais si tu en considères comme un échec, il fera tout. Il va te manipuler ou il va utiliser la force pour atteindre ses objectifs.
Vous dites que c'est quelqu'un qui a la qualité de leadership, donc quelqu'un de responsable. Mais pourquoi après, quelqu'un de ce tempérament devient rude et blessant?
Être un leader, c'est très difficile. Être un leader, c'est quelquefois prendre des décisions qui ne sont pas très bonnes. Être un leader, c'est aussi voir loin, avoir des objectifs. Ce qui fait que ce caractère de leader est vraiment nécessaire. Ce qui fait que quand vous êtes sous un leadership, il y a des fois le leader prend des décisions qui ne sont pas pour nous. Donc, c'est vrai que ça peut porter à confusion. On peut penser que c'est un personnage ou une personne qui n'est pas très bonne. Non, non, ce qu'il a est très important. Ce qu'il a en lui est très bien. Il a même des dons naturels. Vraiment, il y a des fois où il voit les choses très facilement et il a une capacité de régler les problèmes très rapidement. Donc, une personne comme celle-là est très importante dans une vie, à part que lorsque quelqu'un se reconnaît comme colérique, il doit prendre conscience que les autres n'ont pas d'abord cette capacité de voir comme lui, qu'ils n'ont pas les mêmes capacités énergiques de pouvoir agir comme lui et surtout de voir comme lui voit et d'être aussi à l'écoute, parce que être intelligent et voir loin et agir, c'est une chose, mais lorsqu'on on doit emmener les gens dans une direction, il faut prendre le temps d'être à l'écoute des autres.
Olivier, comment découvrir finalement qu'on est colérique ou qu'on a un autre type de tempérament? Est-ce que les indicateurs suffisent? Quel est le secret?
Je dirais qu'il faut regarder en soi. Est-ce qu'on est porté vers l'action? Parce que quand on est colérique, on est porté vers l'action. Et quand on est sanguin, on est porté vers le plaisir. C'est plus les sensations, les émotions qui priment. Et quand on est phlegmatique, on est à la recherche de la paix, d'avoir de bonnes relations avec les gens. Et quand on est mélancolique, on est porté plus à chercher à avoir son temps, on est à retourner vers soi-même, on est plus dans les idées, on est plus dans les pensées. Et c'est comme ça qu'on peut, je dirais, diagnostiquer et connaître son tempérament. Si vous sentez que vous êtes porté vers l'action, si vous sentez que ce qui vous importe, c'est plus les objectifs, l'atteinte de ces objectifs, je dirais, vous êtes plus colérique. Mais si vous sentez que la relation avec les gens prime avant tout le reste, il faut chercher entre le phlegmatique et le sanguin. Et si c'est le plaisir qui prime plus que, je dirais, la relation entre les gens. Vous êtes là, essayez d'utiliser votre humeur, d'utiliser votre, je dirais, vos dons pour rendre les gens heureux. Vous êtes plus sanguin. Mais si vous utilisez vos dons pour garder une bonne relation avec les gens, vous êtes plus flegmatique.
Donc, vous dites aux gens, informez-vous sur votre tempérament.
Exactement. Et en faisant des recherches, on peut se caser facilement. Et souvent, quand on parle aussi des tempéraments, il faut savoir qu'il y a des tempéraments qui sont dominants. On ne possède pas qu'un seul tempérament. Mais quand on parle de quelqu'un en disant qu'il est sanguin ou qu'il est colérique, c'est le tempérament qui est dominant. Mais il a quelques pourcentages, je dirais, de phlegmatique, de mélancolique. C'est pour cela que des fois, quand on parle de ces sujets, les gens sont un tout petit peu confus. Ils se disent, mais je me retrouve dans le sanguin, je me retrouve dans le phlegmatique. Alors, qui suis-je réellement? Il y a le tempérament qui est dominant, mais vous en possédez aussi quelques bribes, je dirais, de sanguin et d'autres tempéraments.
Nathalie, nous devenons ce que nous voulons être en étant constamment chaque jour sur ce que nous voulons devenir. Comment aider un colérique à s'adapter et comment un colérique peut faire quelque chose de lui-même pour adapter son comportement?
Ce qui est important, c'est surtout de reconnaître qu'on est colérique ou qu'on est mélancolique, qu'on est phlegmatique, parce que en parlant de colérique, on dirait qu'on le charge, mais on ne le charge pas du tout, à part qu'il a vraiment une grosse dose d'énergie. Le fait de reconnaître que tu es colérique, c'est déjà rassurant. On a discuté avec beaucoup de gens qui disent, écoutez, quand j'ai écouté vos enseignements, j'ai compris que j'étais colérique, j'ai compris pourquoi j'avais des conflits avec les gens. Ne pas prendre les choses trop personnellement lorsqu'on reconnaît un colérique. Il y a un colérique quand il agit dans le feu de l'action, savoir que déjà, il n'agit pas contre nous. Surtout quand tu es phlegmatique ou mélancolique, on a tendance à être introverti et à tout ramasser sur soi. Donc le fait déjà de diagnostiquer ou de reconnaître, de comprendre le colérique, c'est déjà pour moi un point gagnant. Une autre chose, quand on revoit ses faiblesses, c'est là où ça devient facile de travailler sur ses faiblesses. Donc, si on est enclin vers l'orgueil, on va essayer d'écouter les gens.
Olivier, vous avez témoigné de certaines frictions qui ont existé entre vous deux. Dernièrement, tu disais que ce qui te faisait peur, c'était le regard de Nathalie, qui est mélancolique. Ouais. Comment tu as fait pour que ce regard ne soit plus terrorisant?
Non, j'essaie de parler parce que je dirais pour en tant que sanguin, on essaie de converser, de parler, de discuter parce que les paroles aussi sont hyper importantes pour nous. Alors j'essaie de parler avec elle, mais je voyais que son regard était toujours plus tranchant. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Et après, vous savez, pour nous qui croyons, nous nous réfugions toujours dans la prière. On n'essaie pas d'esquiver la situation, mais on sait là où on puise notre force, c'est en Dieu. Mais quand j'ai prié, je disais, Seigneur, tu vois la femme que tu m'as donnée, parce que j'étais convaincu que c'était le Seigneur qui me l'avait donnée. Et je disais, Seigneur, regarde comment elle se comporte. Moi, je commence à me fatiguer. Mm-hmm. Je suis lessivé par son regard, je suis lessivé par son attitude. Aide-moi, c'est ta fille, tu la connais. La fois passée, on donnait l'exemple des personnalités comme des grands. Je disais, Seigneur, entre tes doigts dans son grand, et que tu puisses la manipuler, que tu puisses la transformer et la changer. Mais j'ai vu que la prière a vraiment changé des choses. Le Seigneur l'a visité et le Seigneur a changé, je dirais, son caractère et son regard était plus doux. Et malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas voir son regard. Il est vraiment réconfortant.
Olivier, il fallait avoir un petit réflexe pour lui chanter une petite chanson, peut-être.
Ça... C'est un mauvais chanteur. La prière a suffi amplement.
Je ne vais pas dire ça. Bon.
Pour sûr.
Qu'elle a le regard qui tue. ajouter les yeux revolver. En plus, c'est vrai.
Exact. Pour ceux qui ont lu Astérix et Obélix, j'avais la voix d'Assurance et Tourix.
Donc, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir retrouvé ta Juliette pour dire ta Nathalie.
Oui, franchement, elle a complètement changé. Ça fait plusieurs années. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur l'a visitée et lui a appris que tout ce qu'elle voulait puiser en moi, c'était seulement en Dieu qu'elle pouvait le puiser. Et là, je me rappelle que le jour où elle a compris ça, elle m'en a fait part. Et là, la parole que je lui ai dite, et je me rappelle qu'elle a rigolé. Je lui ai dit, oh, le Seigneur vient de me libérer de toi. Parce que c'était comme une libération, franchement. Et elle a commencé à chercher, à trouver dans le Seigneur tout ce qu'elle a tellement voulu avoir en moi. Et moi, je ne pouvais pas livrer, je ne pouvais pas lui donner ça, ce qu'elle attendait. Et quand elle a remis les yeux donc à Dieu, elle a remis ses yeux sur le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a commencé à m'utiliser et à lui donner ce qu'elle a attendu depuis des années, sans pour autant l'avoir.
Nathalie, est-ce que tu as confessé?
Oui. Ce qui est bien, c'est quand tu comprends ta faiblesse, et surtout quand on commence à guérir, c'est facile de demander pardon. Mais c'est très difficile de demander pardon lorsqu'on n'a pas commencé à guérir, lorsqu'on n'a pas encore compris pourquoi on demande pardon, surtout pour une mélancolique. Mais bien sûr, ça devient plus facile quand je fais des bêtises, parce que ça n'a pas disparu non plus. C'est facile pour moi de demander pardon. Vraiment, c'est devenu beaucoup plus facile, surtout pour une mélancolique. C'est très difficile d'accepter, parce qu'on est plus dans les idées. Et là, ça a quand même changé.
Et tu as retrouvé ton Roméo.
Ah, oui, absolument. Donc, ce que Olivier venait de dire est très important. Souvent, on recherche dans l'autre ce que Dieu seul peut donner. Quand j'ai compris ce secret que, bien qu'il soit mon époux, bien qu'il soit quelqu'un d'extraordinaire, il n'a pas cette capacité de me combler et que ce cœur ne peut être comblé que par celui qui l'a créé, donc Dieu. Donc, ça m'a rassurée, ça m'a remis sur les rails et les choses ont commencé à bien rouler.
Et le tempérament est aussi important dans un environnement professionnel, n'est-ce pas?
Oh que si. Lorsqu'on ne sait pas avec qui on travaille, lorsqu'on sait que, par exemple, vous êtes un sanguin, vous avez un phlegmatique comme chef de service, ou ça peut être un peu déroutant parce qu'on dirait qu'il ne prend pas soin des gens, qu'il n'est pas réactif, alors que vous êtes extrêmement poussé par les gens. Par exemple, lorsque vous êtes un colérique et que vous travaillez dans un milieu des finances, vous êtes vraiment dans votre élément parce que vous êtes comme un requin. Mais imaginez un peu un sanguin ou un phlegmatique dans le monde des requins de la finance, ça fait un peu bizarre. Donc, comprendre le tempérament, ça permet aussi de mettre en perspective même sa façon de travailler.
Olivier?
Oui, j'allais dire la même chose, surtout quand aujourd'hui on parlait des colériques. Les colériques, ils sont, je dirais, dans une compétition éternelle. Alors, s'ils se retrouvent dans une équipe, dans un milieu professionnel, c'est souvent difficile pour eux de s'adapter parce qu'ils sont toujours en compétition. Pouvoir donc aider les autres, pousser les autres, à moins qu'ils soient le superviseur ou qu'ils soient le chef de l'équipe. Mais s'il fait partie de l'équipe, il essaiera toujours de tirer le drap vers lui.
Selon l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la foi et la personnalité sont intimement liées. La foi au pouvoir de l'obéissance au commandement de Dieu forge la personnalité dont vous aurez besoin dans les moments difficiles. Cette personnalité ne se développe pas dans les moments de grandes difficultés ou de grandes tentations. C'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser. L'exercice de votre foi dans les principes de vérité édifie votre personnalité. Une personnalité fortifiée augmente votre capacité d'exercer davantage de foi. Vous avez ainsi une plus grande capacité de surmonter les épreuves de la vie et plus de confiance pour le faire. Plus votre personnalité se fortifie, plus vous êtes capable de bénéficier de l'exercice du pouvoir de la foi. La personnalité se tisse patiemment avec les fils que sont les principes, la doctrine et l'obéissance. Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Nathalie et Olivier, merci pour votre contribution.
Tout le plaisir a été pour nous.
Merci beaucoup, Eric.
Le sujet de la fois prochaine, c'est la combinaison des quatre types de tempéraments.
Exact.
Absolument.
Oui. On verra la compatibilité ou l'incompatibilité, n'est-ce pas?
Oui,
on va voir ça ensemble.
Puisse le Saint-Esprit vous inciter à prendre toujours des décisions qui fortifieront votre personnalité respective et vous apporteront beaucoup de joie et de bonheur.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On parlait donc de la personne colérique. orienter action avec un tempérament dynamique, impulsif et plein d'énergie. Cette personne peut devenir égocentrique, préoccupée uniquement par ce qui l'anime, sans considération pour les autres et les règles. Il va droit au but, n'aimant pas s'embarrasser de considérations secondaires. Des obstacles sur le chemin ne lui font pas peur. Il n'aime pas qu'on lui résiste. Il est souverain, enclin à la colère, d'une volonté implacable. Il peut manquer de maîtrise et se brûler lui-même. C'est l'homme des challenges et des projets. Merci à Lionel Nandilagahima pour la mise en onde. Eric Malinakiza, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.